Tourline sur toute la matinale. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
L'égalité, un bon plan pour tout le monde. Le week-end dernier, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et comme chaque année, les débats sont repartis de plus belle. Entre ceux qui soutiennent l'égalité et ceux qui trouvent qu'on en fait trop. J'ai même entendu cette pépite, le 8 mars, c'est la journée des ouin-ouin de bonnes femmes. Et oui, ça a été dit, et oui. Alors, remettons les choses au clair. L'égalité, ce n'est pas un caprice, et encore moins une menace pour les hommes. Au contraire, c'est une chance pour tout le monde. Prenons un instant pour parler de toutes ces injonctions absurdes qu'on colle aux hommes depuis toujours. On leur dit « un homme ça pleure pas, un homme ça faiblit pas, un homme ça doit être fort ». Mais sincèrement, pourquoi ? Depuis quand une larme enlève des points de virilité ? Si Will Smith peut pleurer dans un film sans perdre en charisme, pourquoi pas vous messieurs ? Et puis, il y a cette pression financière qu'on impose aux hommes. Le fameux rôle de chef de famille, celui qui doit ramener l'argent pendant que madame gère le foyer. Résultat, des générations d'hommes qui s'épuisent sous cette responsabilité écrasante. Mais qui a décidé que l'équilibre d'un couple devait ressembler à un contrat des années 50 ? Si un homme veut prendre un congé parental, s'impliquer davantage à la maison ou simplement ne pas être celui qui paye systématiquement l'addition, il a le droit. L'égalité, ce n'est pas imposer un modèle unique, c'est laisser chacun choisir librement, sans peur du regard des autres. Et parlons des papas. Un père qui s'occupe de son enfant, c'est un père, pas un babysitter premium. Un homme qui prépare un biberon ou qui gère les devoirs, ce n'est pas un exploit héroïque, c'est juste normal. Parce que l'éducation, ce n'est pas une question de genre, c'est une responsabilité partagée. Et au travail, parlons-en. Un monde plus égalitaire, c'est aussi un monde où les hommes peuvent choisir des métiers sans se faire juger. Un infirmier, un instituteur ou un assistant maternel ne devrait pas être vu comme des exceptions. L'égalité, c'est aussi libérer les hommes des cases dans lesquelles on les enferme. Bref, l'égalité ne retire rien aux hommes. On leur donne juste plus de liberté. Plus on est libre, plus vous êtes libre. Fini la virilité sous pression, les rôles imposés, les injonctions absurdes. Alors, au lieu de voir ça comme une menace, voyons ça comme une opportunité. Une société où on respire mieux et chacun fait ce qu'il aime sans se justifier. Et c'est ça la vraie liberté. Au sommaire de ce soir, donc au programme, vous aurez Lila à l'interview qui on recevra donc Madame Véronique Champeil-Desplat, qui est professeure des droits publics et vice-présidente aux affaires juridiques institutionnelles à Paris-Nanterre. Et comme sujet, évidemment, l'élection de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Flash Info avec Gaëlle qui animera aussi un premier Zoom avec L2P Convention et la présence de Antoine Riboulet. Ensuite, en chronique actu, on aura Isnel comme sujet, le cat-sitting, nouvel antidépresseur paraît-il. Enfin, nous avons la chance d'avoir un deuxième Zoom et ce sera Alice pour les 20 ans des disques bien. Et nous aurons la chance de recevoir Tante Hortense, l'artiste suivi depuis longtemps par le label. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, l'interview de Lila avec notre invitée, Madame Véronique Champeil-Desplat. Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Francesca. Bonsoir Véronique Champeil-Desplat. Le 19 février 2025, les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat ont approuvé la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Philippe Bas, Laurence Wisniewski et Richard Ferrand. Ce dernier, très proche d'Emmanuel Macron qui l'a nommé, prend la succession de Laurent Fabius à la présidence. Cette nomination a fait grand bruit, elle aurait pu être rejetée si 3/5 des suffrages exprimés en commission des lois y étaient défavorables et n'a finalement été confirmée qu'à une voix près. Cette actualité, nouvelle illustration de la défiance dont fait l'objet le président de la République, ravive les débats qui entourent le Conseil constitutionnel. Mais avant de se plonger dans ces derniers, j'aimerais savoir... À quoi ça sert le Conseil constitutionnel ? Quelles sont les attributions concrètes de cette institution ?
Eh bien, le Conseil constitutionnel sert, c'était sa mission principale, à contrôler la constitutionnalité des lois, mais aussi, au début de la Ve République, à contrôler le règlement des assemblées nationales, enfin, de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Parlement, ainsi que les élections. Donc le but au départ de la Ve République, c'était d'encadrer le Parlement, de procéder à ce qu'on appelle une rationalisation du parlementarisme, afin que les assemblées ne soient pas maîtres de leur propre discipline et de leur propre règlement. Et progressivement, le rôle du Conseil constitutionnel va évoluer. Il va évoluer parce que, d'une part, le Conseil a pris de sa propre initiative le chemin de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport au préambule de la Constitution qui comprennent des droits et libertés. Et quelques années après, enfin 2-3 ans après, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, a pris lui-même une autre initiative très importante qui est d'ouvrir la possibilité à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel, ce qui a donné aux oppositions une possibilité d'avoir une séance de rattrapage, pour le dire de façon prosaïque, devant le Conseil constitutionnel. Donc ça a été un premier temps. Et dans un deuxième temps, je dirais que l'autre grand mouvement concernant l'évolution du Conseil constitutionnel concerne l'introduction, la création d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, qui a été mise en place dans les années, enfin, au début des années 2010, et qui permet maintenant à chaque justiciable, s'il estime que la loi qui va être au fondement de son jugement ou de son procès est inconstitutionnelle, de la contester devant le Conseil constitutionnel, ce qui procède d'un mouvement qui avait commencé quelque temps auparavant de juridictionnalisation de l'institution. Donc voilà les grandes lignes. Il y aurait d'autres choses à dire, bien sûr, dans un premier temps, je vous ferai cette présentation générale. Voilà à quoi sert le Conseil constitutionnel.
Donc vous parliez de juridictionnalisation du Conseil constitutionnel. On en déduit donc que les membres du Conseil font un véritable travail juridique. Ils contrôlent les lois et leur conformité à la Constitution. Est-ce que ça n'est pas alors paradoxal que nombreux de ces membres n'aient pas de formation à proprement parler juridique ?
Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de processus de juridictionnalisation, parce que au fur et à mesure que le Conseil a eu à se prononcer sur les lois, mais également c'est un aspect important de son activité qu'on oublie souvent, qui est le contrôle des élections des parlementaires, il s'est comporté comme un juge. Il devait juger ou bien des élections, ou bien des actes généraux, la loi, c'est très important. Et pour gagner en légitimité, il a pris d'importantes mesures qui rétablissent son fonctionnement interne, en tout cas qui l'établissent dans un sens d'une juridictionnalisation, comme la possibilité d'instaurer une forme de contradictoire devant lui, comme davantage de transparence sur son activité. Et évidemment, donc pour revenir à votre question, mais c'était pour planter le décor, là il y a un contraste de plus en plus important qui se manifeste avec le profil des membres qui sont nommés. Alors dire qu'ils ne sont pas du tout, qu'ils n'ont pas de connaissances juridiques, c'est un tout petit peu excessif et caricatural, même si on veut être critique avec le Conseil constitutionnel, parce que bien souvent, quand on regarde un peu le profil des membres de façon un peu plus précise, on s'aperçoit que certains ont une licence de droit, connaissent, et puis l'expérience de parlementaires que souvent ont, font que, évidemment, c'est quand même eux qui produisent la loi qui, à certains égards, si c'est un acte politique, est aussi du droit. Donc, je relativiserai l'absence de connaissances juridiques, mais il est vrai que les profils dominants sont quand même... Et puis, il y a des conseillers d'État, il y a des magistrats. Mais il est vrai que le profil dominant est quand même celui de carrière politique. Et c'est ce qui pose question, et c'est ce qui pose d'ailleurs question avec... la nomination de la dernière salve de conseiller, de membre du Conseil constitutionnel.
Mais selon vous, il n'y a pas une incompatibilité fondamentale entre la fonction politique et au final cette fonction de membre du Conseil constitutionnel ? Il y a une porosité possible ?
Il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale et ça serait ce que je soutiendrais, mais je ne suis pas la seule, si on l'entourait de certaines précautions. D'une part, bon, il n'y a pas d'incompatibilité en ce sens que la loi qui est contrôlée, et même les élections qui sont contrôlées, sont des moments politiques. Et l'expérience politique de membres est importante. Donc, c'est important de l'avoir. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je plaiderais davantage, justement, pour une pluralisation des profils. C'est-à-dire que, il faut des personnes qui ont une expérience politique, mais peut-être que le fait qu'elles aient toutes ce profil dominant peut poser question. Et en tout cas, ça fait très longtemps que j'estime qu'il faut il faudrait ouvrir. Alors, je ne plaide pas forcément pour les professeurs de droit, même si je sais que beaucoup de collègues le souhaiteraient, et moi aussi, voyons, pourquoi pas. Donc c'est important parce que ça offre une autre perspective. On peut penser aussi à des personnels associatifs, à des personnes qui sont passées par des institutions indépendantes. Donc il y a vraiment une façon assez facile, vu l'homogénéité quand même professionnelle aujourd'hui, d'arriver à une diversification. Et puis un autre élément qui pourrait permettre de nuancer, en tout cas d'encadrer ce profil politique, et ça a été proposé d'ailleurs dans une proposition de loi constitutionnelle très récemment, et Laurent Fabius aussi y avait fait allusion, c'est le fait d'instaurer une forme de délai entre les moments où les personnes nommées ont accompli des hautes fonctions politiques, comme parlementaires ou comme ministres, et le moment où elles intègrent le Conseil constitutionnel. Donc ça pourrait être aussi une forme de garde-fou qui coupe court à certaines critiques, parce que Monsieur Ferrand n'est pas le premier. Le fait de passer quasi directement du Parlement au Conseil constitutionnel ou d'une fonction ministérielle au Conseil constitutionnel, évidemment, pose question.
Merci beaucoup. Vous nous disiez plutôt que le Conseil constitutionnel a vu son importance croître au cours de la Ve République. Cette évolution semble en inquiéter certains. Je pense par exemple aux réactions qu'ont suscité la censure partielle de la loi immigration le 25 janvier 2024, notamment dans le camp du Rassemblement national. Ces craintes sont-elles fondées ? Va-t-on vers un gouvernement des juges ?
Alors, la question est compliquée, parce que je pense qu'effectivement, un des problèmes de fond, sans ici aborder les résonances politiques ou ces incidences politiques, je pense qu'un des problèmes de fond, c'est de réfléchir à la place du contrôle de constitutionnalité, précisément par rapport à une loi qui est votée par des représentants élus. Et le problème de fond, c'est de se trouver un équilibre entre ces deux formes, finalement, de légitimité à dire le droit, l'un à produire le droit et l'autre à contrôler l'acte qui était un acte politique. Donc là, si on pose la question comme ça, de façon assez théorique et générale, les débats pourraient avoir lieu de façon très intéressante. En essayant d'être le plus dépassionné, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas résolu aujourd'hui. Et justement, c'est tellement pas résolu et ça n'a tellement pas été posé en France de façon approfondie, alors que ça a pu l'être dans d'autres États, qu'on arrive justement à cette instrumentalisation, ou en tout cas cette repassion politique autour du Conseil constitutionnel. Les critiques du gouvernement des juges, elles sont c'est sempiternel, hein, c'est pas depuis la loi immigration. On peut dire ça fait partie pratiquement du jeu politique. À chaque fois qu'une majorité et censurer à l'estime que le Conseil constitutionnel a procédé au gouvernement des juges, lorsqu'une opposition n'est pas assez entendue à l'estime qu'il y a un gouvernement des juges. Donc c'est une critique qui est vraiment récurrente et qui finalement est un faux débat, parce que les juges, et d'autant lorsque l'on contrôle la constitutionnalité de la loi par rapport à des dispositions générales comme les droits et libertés ou des dispositions d'autres dispositions générales, d'autres principes constitutionnels, eh bien, demandent une appréciation. Donc, pour moi, il faut prendre à bras le corps le fait que les juges, le Conseil constitutionnel, ont un pouvoir d'appréciation. Il ne faut pas le nier, bien que ça l'a été. Et ensuite, se dire, une fois qu'on a cet élément, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont d'autres garde-fous ou démocratiques ou politiques que l'on se donne pour revenir ou discuter une décision du Conseil constitutionnel ou de tout autre juge dès lors qu'elle pourrait poser problème. Alors, donc ça, c'est la façon théorique générale de le poser. Ensuite, il y a la question que vous posez de façon qui est liée au contexte politique, qui est effectivement, une grosse dizaine d'années, surtout les partis d'extrême droite, mais partout en Europe, ou de droite de l'échiquier politique, sont fait une bataille idéologique et pas seulement juridique. Parce que quand les lois sont censurées, c'est souvent au regard de droits et libertés. Alors, ce qui est d'autant plus paradoxal, mais ça c'est mon point de vue personnel, même si je sais qu'il est partagé, c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas une cour activiste de ce point de vue-là. Il y a beaucoup plus activistes en matière de droits et libertés que le Conseil constitutionnel. Et donc, c'est un peu paradoxal de critiquer le Conseil constitutionnel sur ce terrain, alors que il a essayé de faire preuve de mesure. Sur la loi immigration, il n'a pas contrôlé vraiment sur le fond, mais sur les dispositions procédurales. Et là, c'est une forme de faux procès, finalement, qu'on fait au Conseil constitutionnel sur cette décision-là. Sur l'analyse. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne rejoins pas, sur le fond, en tout cas, ces critiques, en tout cas sur cette décision-là, parce que elles le sont sur un mauvais fondement, en fait.
Sur une autre décision, peut-être ?
Sur nos décisions, c'est-à-dire ?
Que vous pourriez rejoindre les critiques potentiellement. Il y avait une formule de Laurent Wauquiez récemment qui parlait, qui disait que les membres du Conseil constitutionnel sont plus influencés par leur idéologie politique que par leur connaissance juridique. C'était quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a un fond ou...
Savoir par quoi ils sont le plus influencés, il faudrait sonder les cœurs et même en lisant les délibérés maintenant qui sont publiés, une grosse 25 ans après, il est difficile de dire par quoi les membres sont plus influencés que d'autres. Il y a différents points de vue, là il y a des débats, que les juges aient des sensibilités politiques, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai ensuite, il y a le délibéré, une façon juridique de présenter les choses. Ce qui est plus ou moins, c'est quand même assez difficile de le dire. En tout cas, il y a une prudence. On ne peut pas nier la prudence.
Plaidiez plutôt pour une... pluralisation des profils au sein des membres du Conseil constitutionnel. Y a-t-il d'autres propositions de réforme qui ont également émergé face aux critiques du Conseil constitutionnel? Et si oui, est-ce qu'elles sont selon vous souhaitables et lesquelles ont des chances d'aboutir?
Alors, selon précisément l'appréciation que l'on a du Conseil constitutionnel, les propositions de modification, elles vont dans un sens et où dans un autre. Dans un sens, c'est certains voudraient diminuer la place du Conseil constitutionnel. Alors il y a eu déjà des propositions, d'ailleurs, de personnes qui ont ensuite intégré le Conseil constitutionnel pour retirer sa possibilité de contrôler les lois par rapport au préambule qui est composé de droits et libertés. Et certains même voulaient supprimer le Conseil constitutionnel. Bon, aujourd'hui, ça semble compliqué, notamment avec la QPC. Voilà, certains vont plutôt dans un sens d'amoindrissement de ses pouvoirs, tandis que d'autres, au contraire, voudraient une évolution vers une juridictionnalisation plus prononcée, qui aujourd'hui, dont le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les nominations en fait, hein, et les autorités de nomination. Certains même pensaient à instaurer une forme de cour suprême qui éventuellement associerait la cour de cassation, le Conseil d'État et donc le Conseil constitutionnel. Bon, là, en termes de faisabilité, je trouve qu'on ne sait pas pour demain, je ne pense pas. Le problème aujourd'hui pour toutes ces réformes, et encore une fois, je faisais allusion à une proposition de loi qui a été déposée début janvier, de loi constitutionnelle. Ben, le problème, c'est qu'il faut réviser la Constitution. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été prises et qui ont été faites par le Conseil constitutionnel lui-même, par l'adoption de règlements intérieurs ou par son attitude. Mais une réforme de fond du Conseil constitutionnel nécessite une révision. Et là, le chemin est quand même très long. Et j'en veux pour preuve, s'il y a une preuve, c'est que depuis très longtemps, il y a cette idée qu'il ne faut plus que les anciens présidents de la République siègent au Conseil constitutionnel. Tout le monde a exprimé, en tout cas, une grande partie, à la fois la classe politique et des professeurs de droit sont d'accord. Et depuis 30 ans que j'entends ça, ou 40 ans presque, ça n'a jamais été fait. Donc pourtant, tout le monde est d'accord.
Bien, merci beaucoup à Véronique Champeil-Desplat.
Merci beaucoup pour cette interview et merci d'avoir été avec nous.
Et on revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute Doechii, Hide and Seek.
Franklin's, Timbers, Sankey, Nickels, Nose, please. Franklin's, Timbers, Sankey, Nickels, Nose,
for the check again. I fall up to the top until I fall again.
Niggas knows
d'écouter Doechii, Hide and Seek. Nous sommes en direct sur Radio Campus Paris et il est 19h24.
La matinale de 19h.
Tout de suite le Flash Info et c'est par Gaëlle.
Le flash info de la matinale de 19h.
On savait qu'Elon Musk voulait envoyer l'humanité sur Mars, mais visiblement, il préfère d'abord envoyer les fonctionnaires américains au chômage. La fameuse commission Doge créée par Donald Trump et dirigée par notre génie milliardaire préféré avait pour mission de rendre l'administration soi-disant plus efficace. En clair, couper à la hache dans les dépenses publiques. Le problème, elle le faisait en toute opacité. Mais voilà qu'un juge fédéral a tranché. Toutes les archives doivent désormais être rendues publiques. Reste à savoir quand paraîtra le livre blanc. Privatiser l'État en 10 leçons. De son côté, l'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, a troqué son costume de leader autoritaire pour celui de prisonnier. Arrêté aujourd'hui à Manille, il est désormais sous le coup d'un mandat de la Cour internationale pour crimes contre l'humanité. Une bien jolie tâche sur son CV, je vous l'accorde. En effet, sa guerre sanglante contre la drogue, qui a vu des milliers d'exécutions extrajudiciaires, n'est visiblement pas passée inaperçue. Pendant ce temps, en France, un texte de loi porté par LFI veut abroger la notion de devoir conjugal. Cet héritage poussiéreux du code civil qui laissait encore entendre qu'un mariage impliquait de... Bon, vous avez compris. Après une récente condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, rien que ça, certains députés veulent clarifier les choses. Le consentement, ce n'est pas une option. En 2025, fallait-il vraiment un texte pour le rappeler ? Apparemment, oui. Et pendant que les habitants du Groenland sont occupés à élire leur parlement, un certain Donald Trump, lui, a encore quelques idées originales. Le président américain a lâché au Congrès dans le plus grand des calmes « Nous avons besoin du Groenland et nous l'obtiendrons d'une manière ou d'une autre ». Une phrase qui, sortie de sa bouche, peut dire tout et n'importe quoi. Achat sur le bon coin, annexion, concours de bras de fer avec Poutine. Bref, tout est possible. Mais le Groenland, eux, ont déjà répondu. Non merci, on préfère rester indépendant. Résumé de la situation, un peuple qui veut s'émanciper et un milliardaire qui veut tout acheter. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous promets de revenir bien vite pour vous annoncer à quel point notre monde va bien.
La prod comme un débile, l'important c'est l'appétit. Passe la porte et ça débite. Tu es sur la scène de crime, on va déduire. À moins d'avoir un palace, qu'est-ce que tu vas flex? Personne ne va te caler. Je veux une sponsor comme Alcaraz, deux dans le jardin et deux dans le garage. Ah ah, Michelangelo, ah ah, filtré dans le cello. Ah ah, Hervé dans deux heures, prends un camballe, change pas la météo. Tout, je vais faire un donut. Personne voit ça d'un bon oeil. Fumer le seum pour lui c'est un bonheur. Il faut juste y grammer un donneur. Ça va, ça va, ça va, je suis au top, ça gaz, mais bon, vu que ça date, Wagwan, le poteau s'adapte, il retrouve sa place. Ça me va, si ça clash, Madara ou Shiwa, pourquoi pas. À la base, moi, je mords pas, je touche ma part, faut charbonner, vu combien coûte l'appart. Tant mieux, y'a des bons et des envieux, tant mieux, cherche les coffres et les grands lieux. Dans le jeu, pavillon, dans un quartier, banlieue, le voisin aimerait savoir ce qui s'y passe. S'il y a des squatteurs ou de la dope, il veut pas avoir d'attroupement. Ni entendre ta crapaud, casse ta mère si on t'a tout appris, mais que t'as rien fait avec, j'ai un atout à rire. J'oublie jamais quand j'analyse, fake, blood, on a la liste, je fais des complots avec, je pense à ça à la mort, j'identifie les hops, je mets le noir à la mode, protection sur la mif, spec, ops, à la niche, tôt ou tard, y'a des gros bâtards, trop de plata, si t'es serein, t'es un beau pacha, mais ça peut pull up et pop ta face, faire un programme à tes potes, ta femme, tu passes à table, canon froid, ils trouvent pas, ça cache, quand ils capent, quand joue pas, ça craque, le projet avance pas, ça pas. J'enregistre comme je fume ce pète et je peux en faire 10 pures dès que je me lève. Faut que je le sorte et que je les mette sur les plateformes que je les wette. Je suis un boss ou un gamin, faut que je job, j'ai tassé un tamien. Lui c'est mon gosse, ça se voit, c'est un gars bien.
Nous venons d'écouter Sopico avec le titre Michelangelo.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom, c'est tout de suite et c'est avec Gaëlle. Bonsoir, rebonsoir Gaëlle.
Alors bonsoir, ce soir on est avec Antoine Riboulet. Tu es délégué à la direction en charge du développement artistique et culturel de la salle de concert La Place et tu es là pour nous parler de la 5e édition de la L2P Convention. Alors on commence avec une question très simple et efficace. Qu'est-ce que c'est la L2P Convention ?
Bonjour, alors effectivement c'est une question simple et à la fois pas très simple. Et donc la L2P Convention, c'est la 5e édition cette année, comme tu l'as dit. C'est un événement sur 3 jours organisé par la place qui se veut un peu un salon, un lieu de rencontre à la fois entre les professionnels du monde du hip-hop élargi et le grand public pour analyser un peu tous les courants qui le traversent, pour débattre des sujets qui traversent ce vaste mouvement culturel qu'est le hip-hop, pour parler rap, pour parler artistique, pour parler danse et aussi pour parler un petit peu business de cette culture.
Alors on en est à la 5e édition et c'est en toute modestie que l'on peut affirmer qu'il s'agit tout simplement de la première convention professionnelle de hip-hop en France. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette année et comme surprise par rapport aux années précédentes ?
Alors c'est vaste, hein, comme la culture hip-hop est vaste, les thématiques abordées sont vastes. Mais là, on a l'impression qu'on a réussi à faire une programmation qui se concentre sur l'innovation dans cette culture. Donc sur la question de l'intelligence artificielle, sur la question de l'aide donnée aux artistes hip-hop, que ce soit en musique, en danse, et aussi en street art, graffiti, en mode, en innovation. C'est un peu ça la thématique principale. On a passé un peu le temps d'expliquer ce qu'est la culture hip-hop et d'avoir un travail d'archive qui est important et qu'on a fait par le passé. Mais là, on essaie de se tourner vers le futur et essayer de traverser tous ces sujets.
D'accord. Alors, comme tu me disais, cette convention, elle regroupe une multitude de pratiques culturelles qui sont donc au sein du hip-hop. On a de la danse, des arts visuels, des performances. Comment vous faites justement pour lier toutes ces pratiques autour d'un même événement qui se déroule que sur 3 jours, quand même, rappelons-le?
Alors, la place, déjà, c'est le centre culturel hip-hop de la ville de Paris. Donc, c'est des disciplines qu'on traite déjà tout au long de l'année. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement d'artistes sur toutes les catégories d'artistes, en musique, en danse, en DJing, en beatmaking. Voilà, c'est des sujets qu'on traite déjà tout au long de l'année. Et on a envie de les rassembler pendant ces 3 jours pour que tout le monde puisse se retrouver autour de ces questions et un peu faire une sorte d'état des lieux de sur quoi on travaille en ce moment. Mais nous, en tant que centre culturel hip-hop, c'est des choses qu'on fait toute l'année sur toutes les esthétiques et même en allant un petit peu plus loin sur l'engagement politique, sur la mode, sur le cinéma. C'est des sujets qui traversent la culture, comme je disais, tout au long de l'année, qu'on traite tout au long de l'année.
Très bien. Donc, sur ce projet, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné quand même de nombreux intervenants. Sur le site et sur le programme, j'ai compté pas moins de 50 intervenants et intervenantes. C'est pas mal quand même. Qui sont-ils et qui sont-elles, ces intervenants ?
Alors pareil, c'est des gens qui viennent d'univers très différents les uns des autres. On a la chance d'avoir à la fois des grands artistes qui seront présents, comme Osmo Puccino, comme Ryan Coffey, comme Cut Killer, comme les danseuses du crew Paradoxal, comme l'artiste graffiti Chaka. Enfin voilà, c'est des têtes d'affiche un peu de chaque discipline. On a aussi des gens qui sont très identifiés par le milieu professionnel du hip-hop. Qui je pourrais citer, par exemple, on a la chance d'avoir une des directrices du CNM, la CEO de l'ADAMI et le président de la SACEM. Donc c'est des gens qu'on a très peu l'occasion de voir discuter ensemble et qui nous feront l'honneur d'être présents. On a Morgan Antonotti qui est à ce jour peut-être le plus gros tourneur en musique rap, le plus grand en termes de catalogue bien sûr. Voilà, plein de têtes d'affiches à la fois artistiques, à la fois du milieu culturel et aussi on essaie d'avoir des têtes d'affiches un peu journalistiques, donc des gens qui sont experts et qui se prennent la tête toute l'année à réfléchir à cette culture et qui viennent présenter ça au public.
Alors en t'entendant, on comprend bien que le programme est dense et avec toute la volonté du monde, on ne pourra pas tout voir. Alors est-ce qu'on pourra retrouver ce contenu sur vos réseaux sociaux ou plus tard après l'événement pour ceux qui n'auront pas pu assister à tous les événements ?
Ouais, alors depuis le début de la L2P Convention, on enregistre tout et on diffuse tout en podcast sur la chaîne de podcast de La Place. Il faut savoir que la L2P Convention, donc, ça a été monté en 2020 en plein Covid. Donc à la base, c'était seulement des vidéos de débats et de talks. Donc toute la première édition, elle est 100% en vidéo en ligne sur la chaîne YouTube, sur le site, tout ça de La Place. Et là, toutes les conférences sont captées en audio, donc elles seront toutes en podcast et il y aura 6 conférences captées en vidéo. Voilà, mais c'est pareil pour les éditions précédentes, on peut retrouver les vidéos des éditions précédentes et les podcasts et tout ça.
Très bien. Et qu'est-ce que vous diriez pour inciter nos auditeurs à venir vous voir, à venir assister à cette convention, à la L2P convention, pardon?
Ce que je dirais, c'est un peu... Je répondrai un peu la même chose que les gens qui ne connaissent pas vraiment la culture hip-hop et la culture rap. C'est qu'il y a toujours quelque chose à trouver dans cette culture, quelle que soit son origine et ce qu'on aime consommer culturellement. Il y a du rap pour tout le monde, il y a de la danse pour tout le monde, qu'on soit un expert, qu'on soit du très large public qui ne connaissent pas du tout cette culture. Donc, qu'on vienne sans connaître du tout le hip-hop ou juste en... pour découvrir ou qu'on soit un expert très précis, on peut trouver dans la programmation des sujets de fond, comme des sujets un peu de vulgarisation, comme des sujets assez fun, faut le dire. C'est pas qu'un événement de prise de tête et de réflexion, il y a aussi plein d'événements assez fun. Il y a une exposition, il y a plusieurs concerts très intéressants, il y a des DJ sets dans le bar. Voilà, donc que ce soit pour la fête, pour juste débattre de la culture, pour apprendre de nouvelles choses, ou pour aller vraiment au fond d'un sujet très précis, on trouvera toujours son compte.
D'accord, très bien. Donc, on comprend bien qu'il y en a pour tous les goûts, et il y en a surtout aussi pour toutes les bourses, parce que rappelons qu'un bon nombre d'événements sont également gratuits, ou à tarifs vraiment très réduits, je dirais même symboliques. Alors, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il reste encore de la place ?
Alors, il reste de moins en moins de places, parce que ça commence bientôt, mais il reste encore des places sur quelques conférences. En gros, nous, c'est important que toutes les conférences et tous les formats soient accessibles à toutes et tous. Donc, pour les conférences, c'est sur prix libre à partir de 3 euros. Voilà, en sachant qu'il y a à peu près entre 3 et 4 conférences complètement gratuites par jour. Et sinon, les autres sont prix libre avec un tarif soit de soutien pour la culture, soit à partir de 3 euros. Voilà. Les concerts sont un petit peu plus chers, mais sont quand même abordables. Mais effectivement, il y en a pour toutes les bourses.
Et est-ce que toi, d'un point de vue purement personnel, tu as des conférences auxquelles tu tiens particulièrement à cœur ou même des événements qui t'ont, dans lesquels tu t'es impliqué davantage ou qui t'ont particulièrement touché ?
Alors moi, je me suis impliqué dans tout. J'ai vraiment programmé tout ça, mais c'est compliqué. Comme tu disais, sur 50 intervenants, c'est des gens très différents et qui ont tous des choses très intéressantes à raconter autour de cette culture. Après, on a quand même la grande chance d'avoir Oxmo Puccino en conférence, en tête-à-tête avec Nargès Bahar. Bon, ça, c'est complet, je vais pas vous mentir. Voilà, mais c'est quand même une chance d'avoir une tête d'affiche comme ça. Après, moi, à titre personnel, personnel et professionnel, je suis très content pour la quatrième fois d'affilée de rassembler les dirigeants du CNM, du Centre National de la Musique, de la SACEM et de la DAMI pour discuter culture hip-hop, parce que je sais que c'est des gens qui ont envie d'en discuter, qui ont envie de se connecter avec ce monde et qui ont parfois un peu de mal à toucher les artistes ou le public hip-hop. Donc ça, c'est toujours une conférence très intéressante avec Ismaël Merighetti. Après, il y a des sujets importants aussi, comme je parlais du collectif Paradoxal, qui est une des très grandes têtes d'affiche de collectif de danse hip-hop, qui réfléchit à la question de la maternité dans la danse et donc de la vie des danseuses qui sont soit enceintes, soit qui ont des enfants jeunes, soit qui ont des enfants qui grandissent, et donc ce que ça implique sur leur corps, sur leur vie professionnelle et plus globalement, en tant qu'artiste, ce que ça implique d'avoir des enfants, de mettre sa vie professionnelle et artistique des fois un petit peu en parenthèse pendant un certain temps. Donc ça, c'est très intéressant, mais on a aussi un sujet sur l'édition littéraire hip-hop. On voit qu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur la culture hip-hop en ce moment. Voilà, allez sur le site l2pconvention.com et ça, c'est ces sujets-là qui m'ont intéressé particulièrement. Plus, bien sûr, la mise en avant des artistes sur les concerts. Je pense particulièrement à l'artiste Juste Chani qui fait la première partie de Jay Olesane pour l'ouverture de la L2P Convention, qui est une artiste que j'adore et que je suis depuis très très longtemps, donc je suis content d'avoir en première partie.
Et justement, en fait, pour revenir sur ce que tu disais, on peut parler d'un engagement en fait dans la L2P Convention, ça s'intègre pleinement en fait dans la mission de la place. J'ai pu lire donc que vous vous engagez aussi fièrement pour percer le fameux plafond de verre. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu et comment vous essayez aussi de vous faire cette place à travers cet événement et aussi à travers les autres événements organisés par la place?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est sûr que toute programmation artistique et politique de fait, donc quand on choisit de donner la parole à certains mouvements artistiques ou certaines personnes qui sont parfois moins sur le devant de la scène que d'autres, c'est toujours des choix politiques. Après, la LDP Convention, c'est aussi l'occasion de le faire très frontalement. Donc, on a une conférence, par exemple, sur la relation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais entre le rap et l'extrême droite. Et donc, comment le rap a pu lutter ou pas contre la montée de l'extrême droite. Donc ça, c'est une question frontalement politique. Pareil sur la question de la musique des Antilles, le chata, bouillon, comment elles ont influencé les musiques plus hexagonales, comment elles ont fait leur place dans la musique hip-hop et rap actuellement. Voilà, donc nous, on considère que vraiment toute la programmation de la place à l'année est de fête politique, de donner comme ça le micro et de mettre sur le devant de la scène une nouvelle création contemporaine. Et c'est forcément d'autant plus concentré sur la LDP Convention sur les 3 jours.
Je pense que là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est courir prendre des places. Où est-ce qu'on peut trouver ces places? Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? C'est quoi la suite?
Alors c'est très facile, hein, c'est l2pconvention.com, voilà, le site de la place, je vais me tromper évidemment, mais laplace-paris.com je dirais, mais pas sûr, mais vous tapez la place hip-hop, vous allez trouver directement sur internet, voilà, le compte Instagram de la place, et toute la billetterie est sur dice.com, voilà, donc l2pconvention dans dice.com et vous allez trouver.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup, merci à vous.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, la chronique de Isnel sur le cat sitting, apparemment un nouvel antidépresseur. Dis-nous tout.
Alors, bonsoir à tous, chers auditeurs. Laissez-moi vous raconter ma dernière épopée chez la psy. Depuis des années, comme beaucoup d'autres, malheureusement, je navigue en pleine dépression entre longues périodes d'inactivité, d'isolement et une procrastination olympique. Ma vie est devenue un vrai festival de rien. Zéro énergie, zéro motivation, zéro joie de vivre. Alors naturellement, chaque psychologue que je consultais me répétait inlassablement « Alors bon, je ne suis pas en capacité d'émettre un diagnostic, madame, mais je pense que vous faites une belle dépression, il serait bon d'aller consulter les collègues psychiatres. » Et moi, grande spécialiste du déni, je répondais « Ouais, je pense que j'ai juste un très mauvais karma. » J'ai tenu bon dans ma vie jusqu'au moment où franchement, ça commençait à sentir le naufrage façon titanique. Alors dans un élan de lucidité, j'ai enfin pris rendez-vous chez une psychiatre. Je suis allée pleine d'espoir, peut-être une révélation, une solution ou une bouée de sauvetage. Là-bas, je déballe tout. Un vrai laïus pathétique. J'explique pourquoi ma vie ressemble plus à un cours de plongée en eau trouble. Et là, à la fin de la séance, la psychiatre me regarde droit dans les yeux et me balance implacable. « Non, 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 vous êtes très loin de la dépression ou du burn-out, mademoiselle. » Et donc, là, je réponds « Ah bon ?» en pleine incrédulité. Et elle me dit « Oui, parce que vous faites du cat-sitting, donc tout va bien. » Alors là, imaginez-moi, perdue dans mon isolement, le désespoir au bord du gouffre existentiel, et on me dit que tout va bien parce que je garde des chats. Des chats. Alors, si je résume bien, s'occuper de boules de poils prouve que je vais très bien. Oubliez les critères cliniques, les diagnostics compliqués, tout ça. Avez-vous déjà nettoyé une litière sans pleurer? Ça, c'est le vrai test. Et comme si cette absurdité ne suffisait pas, cette séance avait lieu le 1er mars, premier jour de l'arrivée de ma bourse étudiante. Timing parfait, je me suis dit. Ah bah non, parce qu'à la fin, on me tend une facture de 200€, tout rond. Et pas de carte vitale de prise en charge. Non, 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 c'est à moi de remplir une tonne de paperasse et d'espérer que l'administration de la Sécu se bouge un jour, ce qui est plus improbable qu'un chat qui obéit au rappel. Alors voilà, chers éditeurs, après des années à me sentir incapable de tout faire, d'avoir une volonté aussi fragile qu'un chat sur une étagère bancale, on me dit que tout va bien grâce au ronron de nos gentils félins. Alors, une logique implacable qui rêvera sans doute tous les vrais dépressifs. Mais bon, au fond, cette séance m'a appris une chose, c'est que le drame se transforme en farce. Même si un remède reste aussi fragile qu'un ronronnement de chat dans la nuit, il y a toujours une petite étincelle d'absurdité capable de nous arracher un sourire. Dans mon cas, cette étincelle se trouve dans 200€ de paperasse et d'un diagnostic défiant toute logique. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que même dans les pires moments, un petit chat et un peu d'humour peut vous sauver la mise.
Merci beaucoup.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, tout de suite, nous avons rendez-vous donc pour notre deuxième Zoom. On a de la chance de faire un deuxième Zoom. Et ce sera avec Alice pour les 20 ans des disques bien. Et nous avons la chance de recevoir Tante Hortense, un des premiers d'avoir rejoint ce label.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Exactement, Alice. Bonsoir. Et du coup, comme tu l'as dit, ce soir, du coup, on reçoit, On reçoit Stéphane du groupe Tante Hortense ce soir qui va nous parler des 20 ans du coup du label des disques bien, les 20 ans qui s'accompagnent également d'une série d'événements pour l'occasion sur Paris. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler juste après. Et pour l'instant déjà, Stéphane, est-ce que tu peux un petit peu nous dire quel est ton rôle dans les disques bien ? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un label qui fonctionne grâce à ses artistes et surtout c'est les artistes qui portent aussi le label. Comment ça se passe ?
Oui, eh ben, oui, tu l'as déjà très bien dit, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des artistes il y a une vingtaine d'années. Qui n'étaient pas très satisfaits. Donc nous, on n'était pas très satisfaits. Plutôt des artistes en rapport avec la chanson peut-être un peu expérimentale ou fantaisiste parisienne. Puis on n'était pas très satisfaits par les modalités de l'industrie de la musique de cette époque-là. Donc ça nous intéressait de réinventer un outil qui nous ressemble. Donc à la fois artistiquement, mais aussi ça veut dire logistiquement et structurellement, puisque c'est en fait c'est deux faces un peu de la même chose. Tu vois, la façon dont tu t'organises et ce que tu crées, je pense, c'est des choses qui sont très liées. Donc en fait, on a mené une réflexion sur ça.
Et sur l'organisation du coup des artistes, parce que toi, tu faisais de la musique depuis un petit peu avant, si je dis pas de bêtises, depuis 2003, tu as commencé la musique avec le groupe du coup Tante Hortense. Et du coup le label des disques bien a commencé, si on fait les 20 ans, en 2025, en 2005. Bac plus 8 maths, je sais.
Ouais, bravo.
Et du coup, comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit, en fait là, ce qui existe ne nous convient pas? Est-ce que vous connaissiez déjà d'avant, ou alors des artistes qui sont un peu greffés au fur et à mesure du projet?
Bon, en fait, il y a plusieurs phases. Tu vois, en 20 ans, c'est un peu long. Donc, au départ, il y avait des artistes comme Flop, pour les gens qui peuvent le connaître, et quand même vraiment un élément très central des disques bien, on peut le dire. Donc, il y avait moi, Tante Hortense. Il y avait aussi Étienne Jomet, qui fait aussi Zombie Zombie, et qui était aussi un proche d'Étienne Jomet. De Flop. François Tarot. French, M. Jo, voilà, c'était un petit peu la bande de base. Et évidemment, tout le monde avait des histoires personnelles particulières par rapport à ça. Il y a ceux qui n'avaient jamais eu d'expérience avec des labels, mais qui ne voyaient pas très bien comment ils allaient faire. Ceux qui en avaient eu, mais pour qui ça s'était mal passé. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça dans les années 2000, de gens qui étaient signés. Il y avait le fameux... des gens qui étaient signés chez des majors, mais les majors n'ayant pas réellement le projet de leur faire faire des trucs, plutôt de mettre une option et puis de les couler, qui étaient plutôt dans une logique comme ça stratégique, et qui avait vraiment très peu de considération en fait, élémentaire pour les gens qui signaient. C'était assez choquant quand même.
Et donc là, vous avez voulu prendre une indépendance par rapport à tout ce qui se faisait à ce moment-là.
On a voulu prendre une indépendance et aussi une dignité, et aussi un outil qui était vraiment excitant, parce que nous, on voulait faire de la musique avant tout. Alors ça voulait dire, mais je peux même en parler en termes très, très concrets, tu vois, quand t'es chez une major dans les années 2000, c'est très
cloisonné. C'est quoi une major déjà ?
Une major, ça veut dire un très gros label, ça veut dire Sony Music, Universal, par exemple. Okay. Bon. En fait, t'as un contrat, tu veux dire quelque chose ?
Non, je t'en prie.
T'as un contrat qui fait qu'en tant qu'artiste, t'as quelque chose qui fait de l'ordre de 7% sur les choses, vraiment très grosso modo. Nous, les artistes, chez nous, ils ont 70%.
D'accord. Pas la même échelle.
Ouais, je voulais rebondir justement là-dessus. C'était vraiment pour, à la base, c'était aussi pour. C'est un peu pour couler, c'est ce qui a marqué. Hein. C'est
ça. Ça, c'est pour le fun. Parce que, effectivement, alors on peut être assez prétentieux, mais bon, formellement. Déjà, c'était surtout pour nous, vivre, juste. Nous, pouvoir vivre et vivre d'une façon qui nous semble.
Plus digne en tant que.
À la fois plus digne et même viable. Au bout du compte, viable. Donc il y avait des choses qui nous semblaient critiques. C'était la répartition des droits, c'était la liberté de ce que tu mets sur un disque. C'est-à-dire l'artiste décide seul du contenu du disque bien. Il n'y a pas de directeur artistique qui, donc, finalement, ça ne me plaît plus parce que tu ne sais pas pour quel mode est-ce qu'il l'a pris, en fait. Non, tu n'es plus le truc, donc ça ne te plaît plus, donc au revoir. Non, on te dit, toi, tu fais un disque bien, tu fais ton disque bien. Et puis, une fois qu'on te l'a dit, tu peux bien mettre ce que tu veux dessus, c'est OK. Il y a un truc comme ça. Et il y a surtout, et aussi, il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Il n'y a pas de notion de tu es mon artiste, tu m'appartiens, tu es sur le disque bien. C'est vraiment pas... Tu vois, il n'y a pas ça. Tu fais un disque ailleurs, c'est ton problème.
Et du coup, toi, en 20 ans là-bas, tu as sorti 6 disques, 6 albums, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce que ce fonctionnement-là de label, ça a permis des collaborations peut-être plus étroites entre artistes qui n'auraient peut-être pas eu lieu autrement?
Bah alors, je suis mal placé pour comparer parce que du coup, je n'ai pas d'expérience d'artiste sur une major, tu vois, parce que j'ai jamais. Bon, voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est autant un club et un club d'amis qu'un label, quoi. Donc c'est quelque chose qui a toujours fonctionné sur bah, t'as besoin de quelqu'un qui fait de la trompette, il y a quelqu'un qui te prête un instrument, ou enfin oui, ça a toujours fonctionné sur la mise en commun en fait des moyens,
une mutualisation des ressources, quelles qu'elles soient, humaines ou matérielles, des différents éléments. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui pendant 20 ans a porté le label, ou qui a permis à vous en tant qu'artiste de pouvoir pratiquer votre art au fur et à mesure. Et du coup, d'arriver au stade des 20 ans, qu'est-ce que ça représente du coup pour toi en tant qu'artiste, et plus globalement pour le label, en tant que label?
J'aimerais bien pouvoir te répondre pour le label en tant que label, mais c'est trop difficile. Je peux donc te répondre qu'en tant que moi, je m'en excuse, c'est qu'un tout petit bout. Bah écoute, et en plus, je peux même pas vraiment te répondre parce que je le découvre en ce moment. Parce que tu vois, là, on prépare des spectacles, et notamment là, on prépare un spectacle pour vendredi, là, le 14, à la Manufacture Chanson avec Flop. Et l'idée de ce spectacle, c'est 22 ans de chansons du jour. Voilà.
D'accord.
Donc, il y a une pratique qui est centrale, notamment au départ qu'on faisait donc Flop et moi, mais aussi qu'on a ouverte à d'autres après, qui consistait à se faire des phases de. Parfois 3 mois où on écrit chacun de son côté, on écrit, compose, enregistre une chanson.
De manière très intuitive, enfin plus spontanée peut-être que s'il y avait un projet construit sur le long terme. Si c'est une par jour, est-ce que c'était peut-être plus.
Bah en fait, c'est ça. En fait, c'est comme. Ouais, c'est un peu comme quand tu fais un dessin. Tu fais un dessin, puis le jour d'après, tu en fais un autre, et puis c'est pas grave s'il est raté. Tu crois que c'est le même, mais en fait, quand tu regardes, ils sont en fait tous différents. Et il y a aussi un truc qui se désacralise et un truc qui se lâche. Faut dire, au bout d'un moment, que t'en as fait 3 qui sont merdiques, t'en as plus rien à foutre de rien. Et en fait, c'est là qu'il y en a des cools qui sortent.
C'est ça, au fur et à mesure.
Au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc qui est central là-dedans. Finalement, la plupart des chansons qui ont fini sur des disques sont des chansons du jour au départ, qu'après ont été éventuellement retravaillées ou pas, ça dépend des gens, des moments, des trucs. Bon voilà, et donc c'est un spectacle autour de ça. Et donc là, c'est hyper émouvant parce que, en plus, moi je classe pas très bien, mais on finit par retrouver en cherchant dans ta douche. Et donc il y a des chansons, mais.
T'avais oublié qu'elle existait.
Mais toutes, tu vois, il y a des chansons, je savais pas que ça existait. Donc le spectacle, c'est à propos de ça. On va essentiellement jouer des chansons qu'on joue jamais, qu'on n'a jamais jouées, qu'on ne jouera peut-être jamais plus.
Est-ce qu'il y en a qu'au moment où tu les as écrites, entendues pour la première fois, tu t'es dit, oh là, elle, je vais la mettre aux oubliettes, et là, 20 ans après, tu les réécoutes et tu te dis, ah, en fait, elle avait vraiment du potentiel.
Carrément, mais même, je ne l'ai même pas mise aux oubliettes, je l'ai oubliée d'elle-même. C'est pas, elle s'est mise toute seule parce que, tu sais, quand t'en fais plein, au bout d'un moment, tu. Donc, il y a ça. Et puis, tu sais, sur le moment, t'es hyper mauvais juge de toi-même. C'est-à-dire, tu te dis, ah, celle-là, elle est cool, en fait, non. Tu t'en fous. Et ça, c'est un aspect. Et pour revenir sur ta première question de chansons écrites il y a 20 ans, il y a aussi un truc, c'est que ben, 20 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Et donc, en fait, tu vois, quand je réécoute, par exemple, moi, des chansons que j'ai faites il y a 20 ans, c'est plus vraiment moi.
C'est un toi qui a changé.
C'est vraiment une autre personne. C'est déjà plus la même voix, c'est plus la même façon de jouer. Puis j'ai vécu des trucs en 20 ans. Je me suis pris, comme tout le monde, des choses bonnes et des choses dans ma gueule. J'ai bien changé, tu vois.
Et je crois que ça va bientôt être la fin. Mais avant, peut-être, on peut revenir sur les prochaines dates.
C'est vrai que
le temps est passé vite.
Oui, vendredi, je crois. C'est ça.
Donc, ouais. Vendredi qui vient, 14, à la Manufacture Chanson. Donc,
concert
Flop et Tantortance.
À 20h30.
À 20h30. Le 20. Dis-les, tu les connais, toi.
Ouais. Je les ai sur la feuille, j'ai triché. Du coup, il y a le 20 qui est au Nouveau Magnolia.
C'est un endroit
où, d'ailleurs, petite promo, on va faire la soirée de printemps de la radio, voilà, au Nouveau Magnolia. Donc, c'est marrant, la coïncidence.
Ah, c'est juste la veille, en plus.
Bah oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Trop drôle. Et le 22 mars, du coup, vous allez aussi enchaîner avec une dernière date qui sera une soirée clôture.
Tout à fait, au Théâtre Berthelot. Alors, ça va être une sorte de, justement, pour cette question de synthèse, en fait, on a décidé de reprendre le répertoire. Désolé, on décide de reprendre le répertoire, les artistes, de les mélanger, de faire une comédie musicale avec tout ça. Donc là, il y aura tout le monde.
Ok, donc je pense qu'il faut y aller pour se faire une meilleure.
Ce que vous allez entendre là maintenant, c'est une chanson qui justement est une chanson du jour, qui n'a pas été publiée. Voilà, dans son
tout à fait.
Être un Michael Jackson vieux. Être un Michael Jackson vieux. Jackson vieux. Être une proposition de vieillesse de Michael. Un Jackson 6, sexagénaire. Un Michael chenu. Michael chenu. Un Michael chenu. Bon comme un grand schtroumpf. Un Michael chenu. Mais danser toujours de l'intérieur. Avoir la même fureur, la même ferveur que Michael. Par ma vie démontrée qu'il y avait en lui de la mélancolie, de la sagesse, mais qu'il aurait fallu encore deux décennies pour que ça apparaisse. Le premier disque que j'ai acheté de ma vie est une cassette. Il a mis plusieurs décennies à me digérer de l'intérieur. Et maintenant, je suis Michael. Michael. Je suis Michael.
Je suis Michael.
Je suis lui. Michael, c'est moi.
Je suis Mike. Michael.
Je suis Michael.
Je suis Michael.
Je suis Michael.
Je suis Mike. Michael.
Je suis 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 Michael.
C'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci à Gaëlle pour son flash info et le zoom à Isnel pour sa chronique. Et bien sûr, merci à Alice pour la coordination et l'animation du zoom 2. Merci Joey pour la réalisation de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts et aussi sur la matinale-RCP sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.